Bonjour Vanessa Douniac.
Bonjour Jean Petot.
Nous allons entrer progressivement dans la jungle foisonnante de votre ouvrage et ainsi évidemment vous découvrir vous-même aussi bien que votre sujet immense, l'Inde. Mais je voudrais dire quelques mots de cette couverture puisque c'est aux éditions des Équateurs. Alors, on croit voir éventuellement un extrait de ou une partie d'une toile du douanier Rousseau. En réalité, c'est un peintre qui est pas forcément très connu, hein, Bernard Boutet de Montvel, qui est mort le pauvre, j'allais dire de manière tragique, hein, en 1949, puisqu'il était dans le même avion que Marcel Cerdan et Ginette Neveu. Ils se sont écrasés aux Açores, le fameux Constellation. Et c'est un peintre tout à fait intéressant, Boutet de Montvel, qui est dans ce qu'on appelle une école de précisionnisme. Alors je dis ça parce que c'est pas un détour, c'est qu'en fait votre livre aussi, il est bien à l'image, et on va y revenir, de cette belle couverture. Vous féliciterez votre éditeur. Je sais pas si vous-même avez eu votre mot à dire. Alors en 99, on va commencer par le commencement. Vous êtes doctorante en littérature à l'université Monteil-Bordeaux 3, ou Bordeaux 3-Monteil, comme on la nommait alors, et puis vous partez en Inde. Ma première question, avant qu'on vienne au livre, elle est très personnelle. Qu'est-ce que vous connaissiez de ce que votre éditeur désigne comme un pays-monde? Et sans être indiscret, qu'est-ce qui vous a invité à emprunter, non pas les chemins de Katmandou, ça c'est un film très célèbre des années 70, et qui se situe au Népal, mais un peu plus au nord du sous-continent, donc, mais a emprunté la route des Indes. Pourquoi vous êtes parti là-bas?
C'est vraiment hasard, en fait, je pense. Je ne connaissais pas grand-chose de l'Inde. J'avais simplement envie, d'ailleurs, de partir loin, d'avoir une expérience à l'étranger. C'était vraiment cette envie-là qui me guidait. Et pour vous dire la vérité, au début, je voulais partir en Afrique. Et le billet pour l'Inde n'était pas très cher. J'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, je me suis dit que ça donnait l'impression d'aller vraiment loin, d'être vraiment loin. Voilà. Alors, donc, je suis partie un petit peu comme ça, au hasard, avec l'idée, par contre, de j'avais demandé un stage à l'Alliance française de Delhi. Donc, j'ai travaillé comme stagiaire à l'Alliance. Ce qui était un moyen de rentrer un peu plus dans l'Inde avec les étudiants. Je leur enseignais le français. Mm-hmm. Donc, c'était un petit peu cette manière-là que je suis partie.
Et à l'époque, alors en 99, vous n'aviez pas forcément envie de faire journaliste, d'exercer un métier de journaliste. Votre éditeur dit que vous étiez doctorante en lettres. C'était quoi votre sujet de thèse ?
J'étais en train de faire un doctorat en littérature comparée sur deux auteurs, Bernanos et Graham Greene. Et j'étais en
cours de... Excellent choix.
Je vous remercie. Et donc, j'étais passionnée, j'étais une étudiante, j'étais vraiment dans mes livres, je faisais traîner la fac tellement j'avais pas envie de rentrer dans la vie active parce que les études me passionnaient, la littérature me passionnait. Et c'était vraiment comme ça que je suis partie avec... Juste pour une pause, le temps de... je voulais revenir faire mes études ensuite.
D'accord.
Voilà. Donc, je n'avais pas fini mon doctorat. J'étais...
Oui, mais c'est ça. J'étais doctorante, comme on dit. Voilà.
Voilà.
Mais alors, le métier de journaliste, parce que quand on est étudiante à Bordeaux, bah, on peut faire... À l'époque, on faisait soit l'IUT journalisme, soit l'ISIC, etc. Bon, ça vous est venu comment, le virus du journalisme?
Alors déjà, j'avais envie de faire quelque chose qui est vraiment... Il ne faut pas du tout dire ça quand on veut être journaliste. J'avais envie d'écrire et voyager. J'avais une vision un peu romantique des choses. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, j'ai fait ce que j'aimais parce que je suis quand même partie en Inde avec... ça s'est fait de fil en aiguille. Une fois en Inde, il s'est passé encore plein de choses avant que je devienne journaliste. Mais tout de suite, en Inde, j'ai eu des amis journalistes indiens. Et cette profession me semblait extraordinaire. Enfin, c'était une manière d'assouvir ma curiosité, de comprendre le pays, de travailler sur différentes réalités. Donc, petit à petit, je suis rentrée dans le journalisme.
Alors, votre livre porte bien ses titres et sous-titres. Nous sommes bien dans des jungles multiples, au propre et au figuré, naturelles et artificielles, politiques, administratives, physiques et spirituelles. Mais c'est aussi une odyssée, ça c'est le sous-titre, au sens homérien du terme, votre odyssée qui s'avère être un voyage quasi initiatique, finalement, de près de 25 années. La structure même de votre livre est un enchevêtrement de récits. Ce n'est pas un tapis volant, mais c'est un tapis enveloppant qui nous associe à votre quête. C'est une écriture, effectivement, on va y revenir, qui est tout à fait originale. Quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire sous cette forme emboîtée qui revient à une forme de mise en abîme, finalement, entre deux registres, un journal d'un côté, une sorte de journal, qui est le reporting de l'événement qui va vous arriver à partir de 22, et puis ces chroniques ou ces chapitres qui sont autant de reportages en réalité. Hein. Comment ça vous est venu cette idée d'emboîter les deux?
Alors d'abord, il y a l'idée qu'il faut raconter ce qui m'arrive, c'est-à-dire le journal, au moment où ça m'arrive. Donc je commence à l'écrire quand je suis en Inde et quand les choses basculent pour moi, c'est-à-dire que je reçois des autorités indiennes une interdiction d'exercer ma profession de journaliste. Donc là, c'est à ce moment-là, c'est un moment aussi, il y a une répression très forte dans le pays. Et je sens que je suis témoin d'un basculement de l'Inde, de quelque chose qui m'implique aussi, puisque je suis ciblée moi-même. Donc là, il y a déjà l'envie d'écrire ce récit, ce journal de base. Je prenais des notes tous les jours. Je savais que j'étais témoin de quelque chose de vraiment très particulier. Et petit à petit, vient l'envie aussi d'emporter avec moi de l'Inde d'autres choses. C'est-à-dire ce qui va raconter ces petits récits qui vont enchasser le journal et ça aussi j'avais besoin de les fixer. Donc très vite aussi vient l'idée de raconter des éléments de reportage d'une manière un petit peu différente que le traitement journalistique. Et c'est un peu comme ça que se sont montés peu à peu ces deux récits, ces deux fils narratifs côte à côte.
Alors c'est un texte globalement qui est très littéraire. Hein. Vous avez vraiment on va y revenir hein, sur cette qualité d'écriture. J'en voulais à votre éditeur dans la table des matières parce que il y a donc 11 chapitres qui, comme vous dites, enchassent votre journal. On peut dire aussi l'inverse. Hein, les passages de votre journal enchassent ces 11 chapitres et les titres sont extrêmement, j'allais dire, simple, hein, ils sont presque en modèle réduit. Hein, le maquis, New York, la mer Noire, les fantômes sauvages. Et en lisant le livre, j'ai complètement apprécié les sous-titres des chapitres qui sont remarquables, qui commencent toujours par OU, hein, OU accent, et qui sont très poétiques. Où les îles sont racines, où la mer est mémoire. J'en trouve d'autres où la jungle est une âme captive et sauvage. Ça, c'est sur le maquis, un très très beau texte. Bon, et à chaque fois, c'est où quelque chose. Et là, on est c'est métaphorique de la jungle, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avancer dans la lecture, ne serait-ce que le titre et le sous-titre du chapitre, pour découvrir quelque chose, un peu comme quand vous nous montrez votre progression dans la jungle où on voit pas les choses. Et là, finalement, votre éditeur, il a bien fait de pas tout dire dans la table des matières. Voilà, on arrive à rentrer dedans. Alors, votre avant-propos consacre une large part à vos amis et collègues journalistes indiens qui vous ont accompagné dans vos reportages pendant 25 ans. Bon, dans le métier, on appelle ça les fixeurs. C'est le terme consacré. Je vous laisse le soin de nous préciser leurs fonctions précises, mais vous achevez votre propos introductif par un texte qui est très personnel, voire intime, et vous évoquez la fin des reportages sur le terrain. Voilà, je vous cite. Hein. « Moi, je regagnais le mien, Delhi, rythmé par la douce routine de mon fils, de mes amis et de mes amants, sous le signe d'une indépendance lumineuse qui masquait pourtant une menace invisible. On sent venir l'orage. Et vous terminez par un dernier paragraphe, cet avant-propos. En marge de nos vies, dites-vous, nous resterions habités par les mondes et les réalités dans lesquelles, un instant, nous avions été immergés, c'est-à-dire vous et vos et votre fixeur ou vos fixeurs, les gens rencontrés, les tragédies révélées, les émotions partagées et les paysages traversés deviendraient les trésors de nos mémoires. Donc, je lis le texte parce que on voit effectivement, vous savez comment on dit, une plume, et les trésors de vos mémoires, de votre mémoire, moi je les ai toujours trouvés. Enfin, j'ai le qualificatif, ils sont imprégnés, c'est-à-dire quelque part, on a le sentiment que ça vous a imprégné. L'Inde vous a imprégné. Je me trompe?
Pas du tout. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je me suis immergée dans des mondes différents qui m'ont effectivement imprégné peu à peu, et c'est ce que j'avais envie de restituer aussi. Ces moments, là, on parle des fixeurs avec les journalistes, donc c'était aussi un hommage que je voulais rendre à ces journalistes qui m'ont accompagnée. Et je voudrais juste aussi dire quelque chose, c'est que vous disiez que c'était des fixeurs dans le sens où ils m'aidaient dans mon travail, dans mes reportages, mais aussi c'est eux qui m'ont appris le métier au début, parce que je n'avais pas fait d'école de journalisme, hein, comme vous l'expliquez. Donc c'est à leur côté que je me suis imprégnée à la fois de réalité politique, d'un contexte géopolitique que je ne connaissais pas très bien. J'ai lu beaucoup de livres à ce moment-là, évidemment, mais c'est aussi des conversations avec mes collègues journalistes indiens où je commence à comprendre les enjeux. Donc il y a aussi à ce niveau-là se familiariser avec le monde politique indien aussi.
Quelle langue vous parliez ou vous parlez?
Alors, on parlait beaucoup l'anglais. Au début, je ne sais pas parler le hindi. Oui. Et puis, petit à petit, je vais l'apprendre. Laborieusement, ce n'est pas facile pour les Français en particulier. Mais du coup, après, j'avais ces deux langues que je pouvais manipuler.
Et le souvenir que j'en ai, non pas de l'Inde, je ne suis jamais allé, hein, mais pour avoir eu des collègues indiens qui venaient en France, dans le monde universitaire, l'anglais parlé par les Indiens n'est pas toujours facile à comprendre non plus.
Alors pour moi, c'est plus facile l'anglais parlé par les Indiens que l'anglais parlé par les Anglais.
D'accord. Bon, très bonne réponse. Bon. ces deux récits, ils ont une typographie différente, hein, entre le journal et vos reportages, voilà. Hein. Donc, en septembre 22, vous prenez un coup de massue, hein, vous recevez un mail, vous avez l'heure précise, et c'est par ce simple mail, on vous annonce qu'on vous retire votre permis de travail, alors que vous êtes la correspondante de, entre autres, quatre grands titres, hein, de la presse francophone, et pas n'importe lesquels, La Croix d'abord, le Point comme hebdomadaire, ça c'est pour la presse française, et puis Le Temps de Genève, qui est quand même une grande référence, et Le Soir de Bruxelles, qui en est tout autant. Vous entamez, vous le dites à un moment dans le livre, une sorte de résidence surveillée, de mise en résidence surveillée, et vous allez vous battre, au moins jusqu'en 24, pour faire prévaloir vos droits. Bon. L'histoire que vous racontez est terrible, en particulier l'acharnement contre vous d'un homme, semble-t-il, Amit Shah, ministre de l'Intérieur, premier lieutenant de Narendra Modi, le Premier ministre, depuis le début d'ailleurs de la carrière politique de Modi, dont on sait qu'il a démarré dans son fief, qui est l'état du Gujarat. La partie de votre journal consacrée à la réception de la lettre du ministère de l'Intérieur après 2 ans de silence qui vous signifie le retrait de votre titre de séjour 15 jours après réception de ce courrier qui vous a apporté par un monsieur, c'est le 18 janvier 2024, c'est un récit glaçant. Tout comme d'ailleurs, on a peut-être l'occasion d'en reparler, la réception donné à l'ambassade de France à l'occasion de la visite d'État du président Macron, le jour de ce qu'on appelle Republic Day en Inde, qui est un jour très important, qui est le 14 juillet indien. D'ailleurs, le match retour, ce sera la présence de Narendra Modi sur les Champs-Élysées comme invité dans la tribune officielle. Et là, vous avez un échange que je pourrais presque qualifier d'absurde avec le ministre de l'époque des Affaires étrangères, qui est Stéphane Séjourné. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour que la foudre vous tombe dessus en 22? Vous le laissez comprendre au fur et à mesure du récit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'est compliqué parce que je n'ai jamais eu d'explication officielle. Donc, les seuls outils que j'ai à ma disposition, c'est des sources ou des gens au sein du gouvernement qui m'ont parlé ou qui m'ont expliqué ce qu'il y avait dans mon dossier. Mais je ne le sais pas réellement. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, en janvier 2024, je reçois une lettre du ministère de l'Intérieur qui m'accuse à ce moment-là, noir sur blanc, de porter atteinte aux intérêts de l'Inde, d'avoir des activités journalistiques biaisées et critiques. Donc là, c'est mon travail de journaliste qui est directement attaqué. De perturber la paix, la sécurité de sections de la société indienne, enfin des choses mais vraiment très très graves. Donc c'est la seule chose que j'ai eue de la part des autorités indiennes. Après, moi, de l'intérieur, je sais, j'ai appris que, bah, effectivement, il y avait des sujets ou des reportages qui n'avaient pas forcément plu. Et que ce qu'on m'a expliqué, c'est que donc Amit Shah, le ministre de l'Intérieur, avait fait une affaire personnelle de mon cas. Ce qui pourrait peut-être expliquer la raison pour laquelle il y a eu cet acharnement à mon égard.
Parce que vous comprenez, pardon Vanessa, vous comprenez qu'il s'est peut-être passé quelque chose à l'occasion de vos reportages au Cachemire. Hein,
Je pense, le Cachemire est un sujet très compliqué en Inde. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur ce thème, sur ce sujet. J'y allais très régulièrement, j'y allais tous les étés pendant très longtemps. Je suis une des dernières journalistes étrangères à y aller après la promulgation en 2019 de l'article 370 qui a été abrogé. Donc là, depuis cette époque, c'est très difficile de faire des reportages pour la presse étrangère au Cachemire. Donc ça, c'est possible, mais je n'ai pas de l'assurance. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'ai dû déranger, ou en tout cas, les autorités ont mis un point d'honneur à vouloir me faire sortir du pays. Ça, c'est sûr.
Tout le monde n'étant pas un spécialiste de l'Inde et de la géographie du sous-continent, je voudrais quand même préciser que le Cachemire, qu'on dénomme parfois sous le nom de Jammu et Cachemire, enfin, je ne sais pas si je prononce bien, il s'agit d'une région qui est tout au nord de l'Inde, qui est adossée à l'Himalaya, précisément à une chaîne de montagnes qui est connue, elle, qui s'appelle le Karakoram, et que se disputent trois grands États, le Pakistan, l'Inde et la Chine. Les deux premiers, Pakistan, Inde, c'est depuis la partition de 47, et la Chine est venue mettre son grain de sable, si je puis dire, ou son grain de sel, à partir de 62. Et régulièrement, ça se bat avec des bagarres, enfin des combats qui peuvent être très violents. J'ai lu que certains journalistes appellent ça la poudrière de l'Asie du Sud, qui est quand même assez inquiétant, surtout quand on sait que à L2, l'Inde et la Chine représentent 27% de la population mondiale. Je redonne ça comme chiffre, voilà. Donc c'est devenu une zone de guerre et une zone quasi interdite, le Cachemire, non?
Alors déjà, c'est aussi deux pays qui ont l'arme nucléaire.
Oui.
Donc c'est pour ça que c'est oui, mais enfin, c'est l'Inde et le Pakistan qui régulièrement à leurs frontières, il y a des escarmouches. C'est pas une guerre, c'est des tensions à la frontière qui parfois dégénèrent en escarmouches ou parfois en véritable affrontement sporadique, comme on a vu récemment. Donc, c'est le Cachemire est à cheval en fait, tel qu'il était autrefois la province du Cachemire, sur le Pakistan et sur l'Inde. Et donc, moi, je visite souvent ce dont je parle, c'est la partie indienne du Cachemire, sous administration de New Delhi, dans laquelle il y a une insurrection qui, dans la fin des années 80, début 90, a eu lieu, voulant se détacher l'indépendance par rapport à Delhi ou le rattachement au Pakistan, c'est selon, il y avait différents mouvements. Donc depuis cette période en particulier, voilà, il y a eu des mouvements avec, comme on appelle en Inde, des militants qui traversent parfois la frontière du Pakistan pour venir combattre l'armée indienne au Cachemire indien, ou alors sont des militants locaux. C'est un peu cette situation qui a perduré durant des années.
Mais ce sont des musulmans ou des hindous côté indien ?
Le Cachemire, c'est la seule province à majorité musulmane de l'Inde. Et des deux côtés, c'est une province traditionnellement musulmane, en effet.
Est-ce que vous aviez des signaux faibles, comme on dit, des avertissements, des conseils plus ou moins officieux, officiels, qui auraient pu être des signes avant-coureurs de la sanction qui vous est tombée sur la tête en 22? Est-ce qu'on vous avait dit, Vanessa, écoute, méfie-toi, tu commences à être dans le viseur?
Alors, ce que je savais et ce qu'on voyait, c'était mes collègues et confrères indiens, journalistes, qui étaient, eux, soumis de plus en plus à une répression qui les ciblait clairement. Ça a été une progression. Narendra Modi vient au pouvoir en 2014 et il a un deuxième mandat en 2018. Et à partir de 2018, il y a vraiment un tournant où il accélère un petit peu les choses. Et il y a un sentiment, je pense, de la part des autorités, un petit peu d'impunité, de pouvoir vraiment faire un peu ce qu'ils veulent à ce moment-là. Et donc, beaucoup d'organismes de presse indiens, de journalistes indiens vont être ciblés. Il va y avoir même des journaux qui vont être accusés de fraude fiscale. Ça, c'est un outil qui est énormément utilisé par le pouvoir. Donc la presse indienne va peu à peu s'auto-censurer, en fait, en quelque sorte. Ceux qui vont tenter de résister vont peu à peu sortir ou se rabattre, par exemple, sur des chaînes YouTube ou quitter la profession parfois pour essayer de faire autre chose. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc ça, j'en suis témoin. Je le vois, il y a le gouvernement oblige certains articles à être retirés en ligne, par exemple, des journalistes se font arrêter, il y a des campagnes de diffamation contre certains journalistes qui sont critiques, et parfois ça va plus loin, il y a des arrestations, il y a des procès, donc ça je le vois, et on voit que ça ne fait qu'empirer à peu près cette année-là. Et finalement, il manquait plus qu'un peu la presse étrangère à ce moment-là. Donc, je n'ai pas eu les signes avant-coureurs. C'était la toute-puissance du nationalisme hindou de Narendra Modi qui était vraiment portée à son paroxysme à ce moment-là. C'est l'année où par exemple, il y a le temple d'Ayodhya en Uttar Pradesh qu'il inaugure, qui est un symbole et qui fait partie du programme du parti nationaliste hindou depuis des années et qu'il parvient à construire et à inaugurer. Donc, ça, c'est un très grand symbole de l'avènement du nationalisme hindou. C'est cette même année-là. Il se passe plein de choses. L'histoire se précipite un petit peu. Et donc, moi, ce que je vois, c'est la presse indienne qui est ciblée. Ça, c'est clairement. Nous, les journalistes étrangers, on était relativement un petit peu à l'écart quand même. Par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait de plus en plus de restrictions d'accès, pardon, à certaines zones du pays, certains États, notamment tous les États frontaliers. Et ça on avait besoin de permission. Ça devenait de plus en plus compliqué. Ça, j'ai vu.
Alors, compte tenu de l'excellence des relations, c'est moins qu'on puisse dire, entre la France et l'Inde, vous expliquez dans votre livre qu'il y a deux autres consoeurs à vous qui sont qui subissent le même sort que vous. Hein, voilà. Un des étonnements que l'on peut avoir, c'est pourquoi s'en prendre à vous qui êtes française et qu'est-ce que la France, l'ambassade, d'abord les autorités françaises font par rapport à votre interdiction de travail?
Alors déjà, les personnes qui vont être ciblées comme moi, les autres journalistes étrangers à ce moment-là, on est quelques-uns à avoir une interdiction de travail parce que nous avions un statut spécial en Inde. J'ai épousé un Indien et j'ai eu une carte, sorte de green card indienne, parce que l'Inde ne donne pas la double nationalité, ne la reconnaît pas. D'accord. Et par contre, j'avais une carte spéciale, un statut spécial que certains autres correspondants étrangers qui vivaient en Inde avaient aussi. Donc, cette green card me donnait beaucoup de droits et une façon de travailler en Inde avec une grande liberté jusqu'à présent. C'était vraiment quelque chose de très utile dans ma profession. Et tout d'un coup, ils ont dit qu'il fallait un permis spécial pour être journaliste en plus de cette carte. Et c'est ce permis-là qu'il me refuse, et il le refuse à quelques autres collègues de différentes nationalités aussi. Donc, il y a un autre collègue français aussi qui sera ciblé quelques mois plus tard. La différence, c'est que ces autres journalistes sont partis d'Inde. Et moi, je suis restée en pensant que si j'allais me battre, expliquer, je connaissais l'administration indienne, j'avais une connaissance de cette culture bureaucratique, j'avais l'impression qu'avec de la patience et en rencontrant les bonnes personnes, j'allais pouvoir débloquer cette situation. Et en fait, ça a été pire, ça s'est empiré, puisqu'à la fin, j'ai pratiquement une lettre qui me demande de, qui m'expulse du pays. Voilà. Donc la France se mobilise énormément dès le premier jour, dans mon cas. Et je pense qu'il y a eu peut-être 25 à 30 interventions de la France à haut niveau en ma faveur, c'est-à-dire chaque fois qu'un ministre français passe en Inde, il, en marge de ses discussions avec ses homologues, il mentionne mon cas. Comme la France a commencé à mentionner mon cas, évidemment, ils ne peuvent plus ensuite arrêter, donc ils continuent à demander à ce que ce dossier sur leur journaliste française soit réglé. Et puis, ça, le, ce qui est incroyable, c'est en dépit, comme vous le dites très justement, des excellentes relations entre les deux pays, l'un ne cède à aucun moment.
Oui, vous faites état de, d'une chargée de communication de l'ambassade, enfin, Michel, c'est ça, si je me souviens bien hein
Michele.
Michele, ah oui, c'est
oui, d'origine italienne.
Oui, ben, je suis là, voilà. qui vous accompagne. Bon. Mais cela dit, quand vous êtes reçu par le ministre des Affaires étrangères, donc je le disais tout à l'heure, Stéphane Séjourné, à la réception de l'ambassade à l'occasion de la visite d'État du président Macron pour Republic Day. Bon, il vous reçoit, il vous écoute, il vous assure qu'il va en parler le soir même. Puis, plus de nouvelles après, plus d'informations. Est-ce que vous avez, avec le temps, compris pourquoi, d'ailleurs, la démarche des autorités françaises s'arrêtait? C'était une fin de non-recevoir. On leur faisait comprendre que ce n'était pas leur affaire.
En tout cas, ils n'ont quand même jamais arrêté de défendre mon dossier.
Oui.
Une fois qu'ils avaient commencé à le défendre, il ne fallait pas arrêter. Donc, par exemple, à ce moment-là, quand Stéphane Séjourné me reçoit, donc Emmanuel Macron est à côté, est à Delhi aussi. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il en avait parlé directement à Narendra Modi, au Premier ministre indien.
Que Macron en avait parlé à Modi.
Oui.
Oui, c'est ça.
Donc, ça devient un incident diplomatique.
Ouais, ouais.
Ça fuite dans la presse indienne à ce moment-là, pas par moi. Et là, c'est aussi une tempête médiatique en même moment qui s'abat sur moi. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Ouais. C'était des gens qui m'appelaient du monde entier pour essayer de savoir ce qui se passait, pourquoi j'étais accusée par les autorités indiennes de choses aussi graves. Et mais la France, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens quand même de cet entretien avec Stéphane Séjourné. Je crois que je le raconte un peu dans le livre. Quelque chose qui m'a fait un bizarre, c'est que il me dit, en fait, quand il me demande qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qu'il y a, et il voit que j'hésite entre tout ce que je sais ou ce que je dois dire ou pas dire. Et il me dit quand même, vous savez, vous êtes en France là, vous pouvez, vous, n'ayez pas peur, vous pouvez parler.
Vous le dites, oui, dans le livre.
Et je réalise que ça faisait des mois que j'avais pas peur en fait, que j'étais tout le temps, on craignait que je sois surveillée, que je sois sur écoute, qu'est-ce que mes avocats, j'avais des équipes d'avocats mobilisées, il y avait tellement de craintes et de peur que tout d'un coup, j'ai quand même ressenti à ce moment-là que j'étais vraiment, voilà, que la France me donnait cette liberté de pouvoir aussi parler et m'exprimer. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette liberté.
Mais vous dans cette période de 22 à 24, vous revenez en France ou pas?
Non, en fait, cette période, c'était compliqué parce que les premiers mois, mes avocats me disent qu'il ne faut même pas que je sorte du pays.
Ça, oui.
Parce que si je sors du pays, oui. Je ne vais peut-être pas pouvoir revenir.
C'est ça, voilà.
Parce que c'est ma carte d'entrée qui est touchée, qui est entachée de cette interdiction. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est inédit. Donc, les premiers mois sont vraiment difficiles parce que je ne quitte pas, je quitte pas ma terrasse.
Vous le dites.
Que je raconte dans
avec votre chat, le chat minuit, qui n'est pas votre chat, mais s'appelle Minuit. Oui.
Le chat Minuit qui est apparu et c'est mon ami durant toutes ces périodes, ce chat sauvage. Et donc, pendant les premiers mois, je ne bouge pas. Et puis ensuite, j'apprends que je peux quand même partir du pays. Donc, je gagne plus d'argent du tout à ce moment-là aussi. Je commence à être... c'est une détresse aussi financière. Donc, il faut absolument que je travaille. Et donc, j'ai fait d'abord les pays autour de l'Inde. J'ai fait des reportages aux Maldives, au Sri Lanka, au Népal, au Bangladesh, au Pakistan. J'ai fait le tour de tous les autres pays qui sont ma zone de... On se découpe, hein, on a des découpages géographiques un peu à l'ancienne, en presse. Donc, on couvre le sous-continent indien qui va donc, comme je vous dis, du Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal et parfois à l'Afghanistan. Donc là, je ne suis pas interdite de travailler dans ces autres pays. Donc je suis allée travailler dans ces autres pays pendant plusieurs mois.
Alors il y a un chapitre de votre journal, on arrive à la fin de votre journal, on n'est pas à la fin du livre, hein, mais à la fin de votre journal, qui est très émouvant. C'est votre dernier jour à Delhi avec votre amie Iris. C'est avant votre départ pour Paris, le 17 février 24. Et avec Iris, qui vous a accompagné pendant ces deux années en Inde, vous vous êtes fait une promesse. Vous vouliez être à tout prix avant 18h11 à la terrasse d'un bar qui s'appelle Le Social, dans le quartier nommé Aos, je prononce mal, hein, Aos Kas Village. J'ai regardé d'ailleurs sur internet par curiosité. Bon, c'est voilà. Et vous voulez voir le soleil se coucher sur des lits. C'est votre dernier soir. Après, il y a des amis qui vous rejoignent progressivement, dans une ambiance, vous dites, un peu bollywoodienne. Pourquoi vous vouliez faire cette espèce d'adieu à vos 25 ans?
En fait, tout d'un coup, il faut vraiment partir. D'ailleurs, c'est mes amis comme Iris qui me disent, mes avocats me disent, là, il y a quelque chose qui pèse contre toi, qui est contre toi. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu n'es pas en sécurité là. Il faut rentrer en France. Donc, je ne veux pas partir. Je ne veux même pas faire ma valise au début. Et puis, tout d'un coup, on me dit vraiment qu'il faut que là, il faut que je me bouge. Donc, c'est simplement quelques jours, tout ça. Quand on a vécu 25 ans dans un pays, partir comme ça, c'était tellement dur pour moi. Donc j'avais besoin de me réapproprier quelque chose, de faire en mes termes. J'étais victime d'un gouvernement, j'avais besoin de me redonner une forme de liberté dans mon départ et de le choisir comment je voulais faire. C'est idiot, c'est qu'un détail, mais c'était le soleil. Voir cette Inde que j'ai... En plus, Oscar, c'est magnifique, c'est au-dessus de ruines, il y a une forêt, il y a des chauves-souris qui passent, des oiseaux, il y a un réservoir d'eau. C'est un très, très bel endroit, magnifique endroit dans Delhi. Et c'est le Delhi dans lequel j'ai vécu 25 ans, que j'aime. Donc voilà, c'était, en mes termes, retrouver un moment de beauté à cette Inde que j'ai tant aimée, juste avant de partir. Et c'est ça que j'ai voulu faire en allant... je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut voir un coucher de soleil. Donc, j'avais calculé.
C'était un crépuscule. C'était un crépuscule.
Voilà. C'est ça, un crépuscule.
Alors, plus tard, vous êtes à Paris, hein, des amis vous ont prêté un appartement au sixième étage d'un immeuble qui fait l'angle, dites-vous, de la rue Faubourg-Poissonnière et la rue Lafayette. Et puis, le 25 mars 2025, vous recevez un mail. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce mail?
C'est une phrase. C'est juste une phrase qui dit que je suis autorisée à travailler, que le permis de... Je ne me souviens plus exactement dans les termes, ça, je suis désolée. Je sais que le permis m'est octroyé. Le permis de travail en Inde m'est octroyé. Alors ça, c'est incroyable parce que ça allait très, très loin. Et c'était impensable. Jamais une seconde, on avait pensé que les autorités indiennes pourraient changer d'avis. Ça, elles ne le font jamais, en général. Mais peut-être que là, on ne peut que faire des suppositions, qu'il fallait... ça avait fait un peu trop de bruit. Je pense que ça n'était finalement pas de la bonne publicité pour l'Inde, cette histoire, et qu'elles veulent enterrer ça. Voilà. Et donc, c'est un permis à condition de 1 an seulement. Il est dépassé à présent.
Ah, d'accord. Ah oui.
Oui.
Il faudrait que vous redemandiez son renouvellement.
Oui. C'est compliqué quand même avec tout ce qui m'est arrivé pour moi de revenir en Inde, je pense.
D'accord. En fait, ce qu'en allemand, on appelle le Berufsverbot, c'est-à-dire l'interdiction de travailler, a donc été levé, même si ça a été que pour une année. Voilà. Alors, on va revenir aux autres chapitres de votre livre. Ce sont donc des chroniques, j'ai dit, en quelque sorte, hein, des reportages sur le terrain qui s'inscrivent dans la grande tradition de ce que le regretté Michel Lebris a nommé les écrivains voyageurs, en faisant d'ailleurs un merveilleux salon annuel à Saint-Malo. Et votre livre, moi, je trouve qu'il se situe dans la famille des récits de Joseph Kessel en Afghanistan, de Henri de Montfred en Mer Rouge et au Proche-Orient, évidemment de Kipling en Inde, mais aussi d'Alexandra David-Neil, hein, dans cette même région, entre l'Inde le Népal et le Tibet. Puis une autre femme autrice et voyageuse qu'on a oubliée, mais qui est incroyable, qui s'appelait Olympe Audouard, en Égypte, en Syrie, en Turquie, en Palestine, puis en Pologne, qui n'existait pas d'ailleurs, et en Allemagne entre 1860 et 1890, vous vous rendez compte? Et puis aussi, elle est plus connue, Isabelle Eberhardt, qui est morte en 1904 à 27 ans en Algérie, avec des reportages d'une très grande beauté. Bon. Et dans votre livre, il y a des paysages, il y a des sons, il y a des odeurs, il y a des personnes. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus étonnant? C'est compliqué comme question, mais dans la société indienne.
Je ne peux pas répondre à ça, c'est tellement difficile comme question. La complexité de ce sous-continent. D'ailleurs, mes reportages, je ne parle pas que de l'Inde, hein. On parle aussi du Népal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. Le plus étonnant, je ne sais pas répondre, c'est une multitude de choses, d'impressions. Je mélange le travail, puisque c'était souvent des reportages, et aussi
Le sentimental. Le sentimental aussi.
Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est tout mélangé pour moi. Étonnant, c'est déjà la découverte de... En fait, j'hésite parce que j'allais répondre. Il y a à la fois un côté de découverte constant quand on voyage comme ça, parce qu'on apprend plein de choses. Vous savez, l'Inde, c'est un pays où on fait 50 km, c'est une autre religion, une autre communauté, un autre. C'est incroyable la diversité de ce pays. Donc il y a tout le temps cet apprentissage et donc un étonnement par rapport à ce qu'on va découvrir. Ça, c'est toujours ça. Et en même temps, ce qui est, je trouve extraordinaire, c'est la proximité qu'on peut créer avec les gens avec lesquels qu'on va rencontrer, qu'on va interviewer, en dépit des différences culturelles. Et ça, je le ressens tout de suite dès que je suis étudiante et que j'arrive en Inde et que je commence à voyager dans des bus locaux, partout dans le sous-continent, pour rien du tout d'ailleurs. C'était facile, l'aventure à portée de main. Mais aussi, je vois qu'en parlant avec les gens, je comprends leurs problèmes, je comprends l'envie de... Il y a beaucoup d'agriculteurs, les filles, on espère qu'elles vont aller à l'école, qu'elles vont être bien éduquées, enfin, des soucis qui sont aussi des soucis qu'on peut retrouver dans plein de sociétés. Donc, c'est à la fois cette proximité et cette différence.
Alors, on va parler d'abord de Delhi, parce que c'est là, vous parliez de la complexité. Hein. On comprend bien que Delhi, en soi, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. J'ai retenu trois réflexions qui sont dures hein, sur Delhi. Vous dites art civilisationnel précurseur, la trahison est le socle du sous-continent et de ses renaissances successives. Dans le quotidien de Delhi, on ment à ses proches, on escroque ses neveux, on dupe ses associés. Silence, point d'exclamation. Et puis, comme si ça suffisait pas, de nouveau citation, capitale de la gastronomie et du viol, ville au record au pluriel de mariage et de suicide, Delhi exulte et broie les êtres. Et enfin, page 29, Delhi est un assemblage de ghettos. Alors, on sent que c'est pas un texte qui a été écrit par le syndicat, par l'office du tourisme central de Delhi, et on a envie de se dire, charmante cité, dites donc. Bravo pour la pub. Je rappelle que la ville compte officiellement 35 millions d'habitants, enfin 35 millions et demi d'habitants. Ça, c'est la mégapole, hein, puisqu'il y a Delhi et New Delhi. Mais, et ce 35 millions d'habitants est à rapprocher des 1 milliard 465 millions d'habitants décomptés en Inde en 2025. Alors, Delhi, c'est... Vous dites que c'est une ville monde. C'est quoi Delhi ?
Justement, c'est ça, c'est cette dureté, cette difficulté, cette survie en fait de beaucoup de gens. En fait, j'ai vu un peu cette société de l'intérieur parce que au début, donc comme je vous le disais, j'ai épousé un Indien dont là j'en suis séparée, mais j'ai vécu dans sa famille quand je suis arrivée en Inde. Donc, vraiment dans les cellules indiennes avec ma belle-mère indienne. Et j'ai découvert cette société de l'intérieur, dans Delhi. Et j'ai découvert que c'était aussi une société... Il y a beaucoup de solidarité, de chaleur entre les membres dans ces familles, mais il y a aussi beaucoup. C'est une société très dure. Il y a beaucoup de la vie est difficile pour gagner sa vie. Pour il y a beaucoup de situations tellement difficiles. Donc il y a une, je dirais qu'il y a ce mélange entre la dureté des choses et puis c'est une ville très très belle aussi. Et j'essaye de juxtaposer les deux avec des émotions différentes que j'ai ressenties face à ces différentes réalités.
La dureté de la ville, par exemple, on l'a saisie dans le chapitre 2. Alors, c'est dans un contexte très particulier. Ça s'appelle le figuier de Chamnichovsk. Bon, j'ai mal prononcé, certainement, mais avec un très beau sous-titre, où l'arbre protège et où la ville devient village. Alors, c'est le Covid. Hein. On est dans le Covid. Vous faites un long reportage avec des paysans du Billard, si je me souviens bien. Hein.
Ce sont des migrants, c'est les ouvriers qui travaillent à Delhi et qui participent à cette économie informelle. Ils sont très, très importants, en fait. Il y en a tellement beaucoup d'ouvriers, de travailleurs qui viennent d'autres régions. Donc là, il va y avoir de plusieurs régions, mais en particulier de la région du Billard, de l'état du Billard, qui est sous le Népal.
Oui, qui était un bassin Gange. Un état très pauvre, extrêmement pauvre.
Oui. Oui.
Bon, là, on est dans un contexte particulier qui est le Covid, mais on comprend que cette société indienne, vous le disiez, c'est une société dure, c'est aussi une société avec une très grande sophistication des relations humaines. Alors, entre autres, avec la problématique des castes, hein, à l'évidence. Hein. Mais vous-même, vous dites, je suis une étrangère, une hors-caste, anomalie flottante au gré du souffle de la ville géante, femme blanche, reléguée à son identité singulière, j'aime Delhi, capitale improbable de ma liberté, sanctuaire chaotique et poétique d'un ailleurs devenu bien. Vous êtes une femme blanche, hein, bon, vous assumez évidemment ce statut. On a l'impression que le sexe, vous dites, est très présent, hein, en Inde, au sens de, il y a une sexualité qui apparaît dans les, une sorte de sensualité, sexualité dans les films bollywoodiens, etc. Les relations hommes-femmes, vous dites, c'est pas simple dans une relation, dans une société très religieuse aussi. Est-ce que vous avez constaté une évolution, par exemple, sur le statut des femmes? Parce que on voit et on connaît le sort réservé dans certaines parties de l'Inde aux jeunes femmes. Il est terrible.
Oui, déjà, c'est une société très patriarcale. Parfois, je pense qu'il y a vraiment une évolution. J'ai vu 25 ans, donc évidemment que ça va dans un sens. Dans les années 2000, 2010, les filles, le fait que les filles veuillent avoir une profession importante et que les pères défendent cela, ça devient quelque chose d'important, qui fait partie du discours, d'un discours normal à un moment donné, alors qu'avant c'était plutôt exceptionnel. Donc ça, oui, ça j'ai vu ça dans ce changement. Après, ça reste, ça dépend, c'est difficile d'expliquer, entre Delhi, vous avez des bars avec des jeunes femmes très émancipées, très occidentalisées aussi, qui voyagent, et puis les campagnes où le statut des femmes est complètement différent. On passe vraiment du noir au blanc, quoi. Ça peut être très différent.
Vous n'avez pas trouvé en Inde, au rythme et au fil de tous vos voyages et de votre connaissance approfondie du pays, une sorte de microcosme qui serait une Inde en miniature? Qui rassemblerait toute la complexité, la diversité de l'Inde.
Alors, il y a un endroit qu'on appelle en Inde Little India, c'est les îles Andaman et Nicobar.
Alors, on va y venir, parce que c'est passionnant, ça.
De colons indiens, mais c'est l'Inde encore, qui sont venus là de toutes les régions du monde. Donc, on peut retrouver un peu tout ça.
D'accord. On va y venir, parce que vous avez un chapitre qui est... après le tsunami, qui est terrible.
Oui.
Oui. Je voudrais qu'on parle d'un chapitre tout à fait étonnant qui m'a rappelé, par certains aspects, le livre de mémoire d'Ingrid Betancourt quand elle a été prisonnière en Amazonie. Puisque d'ailleurs, ça se situe dans un état qui s'appelle le Chhattisgarh, qu'on appelle l'Amazonie de l'Inde. Et là, vous êtes... Alors, pour le situer, c'est entre Raipur et Hyderabad. C'est plutôt dans le centre-est de l'Inde. Hein. À 200 kilomètres, j'ai vu, au nord de Pondichéry. Hein.
Différent, oui.
C'est ça ?
C'est ça, voilà. Le centre de l'Inde. Oui.
Voilà. Alors là, il y a ce qu'on appelle les Naxalites. Et c'est un maquis maoïste. Donc, c'est quand même pas rien. Et tout ce chapitre, qui est le chapitre 3 du livre, vous racontez une sorte de... C'est pas une nuit, hein, c'est deux jours ou trois jours. Enfin, et vous êtes dans la clandestinité totale avec des femmes... on dit qu'il y a 70% de femmes combattantes dans ce maquis maoïste. Et c'est tout à fait étonnant. Qu'est-ce que c'est, ces maoïstes-là?
Oui, alors déjà, je raconte qu'une nuit, hein, quand même. C'est oui. Du moment où on se douche sous la cascade et on
c'est
part.
Ça. Oui, c'est ça. Oui, ça fait, oui.
On doit oui. traverser une route. J'étais restée plus de deux semaines et je suis revenue une autre fois encore deux semaines. Donc, j'ai essayé d'extraire juste un moment.
Bah, vous dites que c'est...
Je ne peux pas tout raconter.
Donc. Vous dites que c'est le jour le plus long oui. ou la nuit la plus longue que vous avez vécue. Voilà.
Oui, parce que j'ai eu très peur et on a marché toute la nuit en essayant d'échapper éventuellement à l'armée indienne qui patrouillait à proximité. Donc, quand j'ai réalisé ce qui était en train de se passer, j'ai compris que c'était très dangereux, effectivement. Enfin, je le savais déjà, mais là, il y avait particulièrement une situation tendue. Puis, c'est une situation où toute une nuit, on traverse la jungle. Enfin, on marche à travers la jungle. Donc, c'est très spécial dans cette obscurité, etc. Mais pour revenir à ce mouvement, cette guérilla, en fait, elle est née pas vraiment ici à la base, mais près de Calcutta, dans le Bengale occidental. En 1967, c'est l'insurrection de paysans dans un village qui s'appelait Naxal Bari, qui a donc donné son nom ensuite à la guérilla, on les appelle les Naxal, mm-hmm. c'est maoïste, et qui se sont propagés à travers l'Inde. On parle même d'un sort de corridor rouge à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est différent, mais à un moment, dans ces années-là, de 2010, c'est très, très présent. C'est une menace, une grande menace pour la sécurité de l'Inde. Ils font des attentats en tuant des forces de l'ordre indiennes dans la forêt. Enfin, ils sont redoutés. Ils vivent cachés dans le maquis, dans plusieurs endroits. Et principalement, ils sont très, très impliqués pour la défense des droits de la terre et des aborigènes qui sont très nombreux dans ces régions et qui sont les oubliés de l'Inde, en fait.
D'accord.
Donc, en fait, au début, je travaille sur l'insurrection maoïste au Népal, où il y a à ce moment-là, en fait, c'était vraiment l'actualité importante, c'est qu'il y a une guérilla depuis 10 ans au Népal qui va renverser le pouvoir et le roi, il y a une monarchie, et finalement se présenter aux élections pour revenir dans un Népal démocratique. Donc, il s'est passé beaucoup de choses au Népal, et en travaillant au Népal, dans les maquis népalais, en essayant de comprendre quel était l'objectif de la guérilla maoïste népalaise, je me suis dit, c'est intéressant d'aller voir aussi en Inde. Il y a aussi une guérilla gigantesque. Mais on en parlait très peu d'accès. Je crois que je reste la seule journaliste étrangère à avoir été dans cette jungle avec ces maoïstes. Et je me dis vraiment, c'est très intéressant d'aller essayer de comprendre ce qu'ils font vraiment là. Alors aujourd'hui, ils sont complètement écrasés. Hein. Je crois que cette année, il y avait encore des informations disant qu'il y avait des rémissions des commandants maoïstes. Voilà, l'armée indienne a construit des camps militaires un peu partout. Mais à cette époque, ils étaient encore très actifs, très, très craints, très, très redoutés. Et je visite une zone où ils m'expliquent que c'est une zone libérée. Que c'est leur gouvernement. Donc, c'est ça que je devais faire pendant deux semaines. C'était voir qu'est-ce qu'ils avaient installé comme gouvernement au cœur de l'Inde, dans ces jungles qui sont les jungles de Rudyard Kipling, quand même. Hein. C'est le livre de la jungle, a été écrit au Kanha National Park, qui n'est pas très loin. Je marchais dans cette jungle en imaginant que c'était celle de Kipling, quand même. C'est incroyable.
Et vous disent d'ailleurs, le plus dangereux, ce n'est pas les serpents, parce qu'on a de l'antivenin, mais c'est les ours.
Il y avait beaucoup d'attaques d'ours sur les camps. Il fallait faire attention. Ouais. On avait un feu. enfin, quand on ne fallait pas être repéré par l'armée indienne, mais sinon les maoïstes allumaient un feu. Et être un peu à l'extérieur du camp, c'est dangereux parce que les ours peuvent arriver.
Ils ne sont pas tous balous, quoi.
Ils sont petits, ils ne sont pas des très impressionnants. Quand même.
Ils ne sont pas tous le gentil balou du livre de la jungle. alors, on va parler de cet archipel, Andaman et Nicobar. Enfin, on connaît surtout Nicobar. Dans un récent livre absolument passionnant de géopolitique, Thomas Gomard évoque d'ailleurs dans le livre le duel Modi versus Xi Jinping. Et entre autres enjeux, il y a cet archipel des Nicobar qui est un territoire tout à fait étonnant, qui est très loin de l'Inde et qui est très très proche de Sumatra. Et du fameux détroit de Malacca, puisqu'en quelque sorte, ces îles, je crois qu'il y en a une quinzaine dans les îles de Andaman et Nicobar, ça peut devenir un verrou stratégique tout à fait considérable, en particulier dans cette zone que Narendra Modi entend bien avoir sous contrôle, qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Voilà. Vous y êtes allé juste après le tsunami du 26 décembre 2004, je crois.
J'y suis allée à plusieurs reprises, mais après le tsunami. Le tsunami ouvre la possibilité pour les journalistes de pouvoir faire des visites. L'archipel est découpé en deux parties. Il y a Andaman, en haut, qui est touristique, où on peut aller en vacances. D'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, il y a des constructions d'hôtels dans le nord qui sont un petit peu inquiétants au niveau écologique. Et puis, il y a l'archipel du sud, Nicobar, qui descend jusqu'à Sumatra. Nicobar, c'est vraiment protégé. Il faut des permis spéciaux pour les étrangers ou des autorisations. Il y a des îles, je pense, qui n'avaient pas vu d'étrangers depuis des décennies avant le tsunami.
Surtout qu'il y a cette fameuse île North Sentinel qui est étonnante, puisqu'on dit que c'est le territoire inviolé sur Terre. Je ne sais pas ce que ça vaut comme...
Effectivement, les scientifiques indiens ont décidé d'interdire l'accès à certaines îles où vivent des tribus qui sont protégées, enfin soi-disant, hein, parce que ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, ils ont quand même des interactions avec la population, il y a de l'alcoolisme aussi pour certains cas, mais certaines sont dans des îles isolées, donc forcément, il n'y a pas la possibilité d'aller les voir, sauf dans cette île, où ils ont encore des flèches, où ils sont assez agressifs. Ils ont tué un Américain qui est venu en bateau pour essayer de les évangéliser il y a quelques années, enfin, une espèce d'anecdote. Et il a été tué, cet homme. Donc très agressif pour certaines encore.
Je voudrais que vous nous parliez, on va terminer bientôt, je voudrais que vous nous parliez d'un couple très émouvant, c'est Moji et Aïcha. Ce sont des Rohingyas, donc cette communauté musulmane opprimée par la junte du Myanmar, qu'on a l'ex-Birmanie. Hein. Et ils sont les personnages principaux d'un chapitre qui s'appelle « Les apatrides ». Et c'est le chapitre 10. C'est un très beau chapitre qui est presque triste, puisque je donne le sous-titre, je vais le retrouver, « Où il n'y a ni terre ni mer ». Là aussi, vous avez été auprès de la communauté Rohingya.
Alors ça, c'est un sujet que je commence à couvrir à peu près dans les années 2005-2006, très tôt, parce que ça fait très longtemps que les Rohingyas sont opprimés au Myanmar et traversent la frontière pour passer du côté du Bangladesh dans une sorte de langue de terre comme ça qui s'avance un peu dans la mer. On voit le Myanmar en face, de l'autre côté du fleuve. C'est des régions assez belles aussi, hein. Et donc là, il y a les camps de Rohingyas qui vont se constituer et devenir de plus en plus énormes. Aujourd'hui, c'est plus d'un million de personnes dans ces camps. Et j'ai commencé à les couvrir. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe quand on est journaliste. Souvent, j'essayais de revenir dans les endroits, d'être fidèle en fait au sujet que je couvrais, de pas y aller une fois et de plus revenir dans des tragédies pareilles. J'ai essayé de continuer à raconter et à y aller de temps en temps. Et je voulais les raconter autrement dans mon livre. Donc j'essaie de raconter un petit peu une histoire d'amour entre dans un couple qui vient juste d'arriver au Myanmar et qui va vouloir se marier parce que c'est le premier acte de liberté qu'ils veulent faire. Et c'était important pour moi de les dépeindre autrement qu'à travers les tragédies qu'on. Si vous regardez, les Rohingyas, ils existent que pour cette arrivée en masse dans les camps. C'est une déshumanisation un petit peu de ces populations. Donc j'avais envie de parler d'autrement.
Le dernier chapitre, avec un très beau titre, Là-haut, où j'ai galopé à la fin d'un été sur le toit du monde, c'est presque un conte. Vous rencontrez un prince, Jigmé. Il vous déclare la réincarnation de la princesse Nilsa. C'est une histoire, c'est quasiment une fantasmagorie. Ça se passe dans un royaume mythique qui s'appelle le royaume du Mustang. Parce que c'est étonnant, parce qu'on pense que les Mustangs, c'est des chevaux du Far West américain, à moins que ce soit une grosse voiture, une voiture connue qu'on retrouve dans les films américains. Non, là, c'est ce royaume mythique dans le Ladakh, qui est aussi une zone de conflit, sur le toit du monde. Et je lis la fin, rayonnant, le prince et moi échangeant un regard complice. Peut-être ces étriers ont-ils appartenu à Nilsa. Une émotion sereine m'envahit. Près de 3 siècles après sa mort, la princesse de l'Himalaya, muse de mon voyage, m'a offert une échappée hors du temps, le toit du monde pour refuge. Et l'écho singulier, tourmenté et grandiose d'un souffle intérieur conjuguant le soleil et la lune. Et effectivement, je trouve que c'est bien de terminer de manière apaisée sur ce chapitre. Et en terminant votre livre, je ne saurais que conseiller et recommander la lecture de votre livre, Vanessa, qui est vraiment passionnant. Voilà, donc je le montre, Vanessa Dougnac, Jungle au pluriel. Mon odyssée en Inde, et c'est cette belle maison d'édition Équateur au pluriel. Merci beaucoup, Vanessa.
Merci beaucoup.